Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la rentrée scolaire 2023-2024. Quelles sont les mesures prises pour consolider la gratuité et comment éviter les dérapages constatés généralement dans les écoles privées et autres écoles conventionnées catholiques, particulièrement la vente des objets classiques et autres. On en parle avec Serge Bondé d'ILA, il est secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education. On va les retrouver tout à l'heure. Comment promouvoir l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo? C'est le deuxième sujet de cette émission à partir des 11h05 de Kinshasa avec Madame Safiva Vianifa, coach et directrice gérante de la coopérative des femmes productrices des savons à Goma dans la province du Nord Kivu. Alain Goy à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission au micro. C'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Estoy
Vous écoutez la radio Capi, une voix pour tous. Mesdames et messieurs, merci d'être là à l'écoute de votre émission, le magazine au Capi Service. Aujourd'hui, tel que je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler des préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024. Alors, nous allons parler des mesures prises pour consolider cette gratuité. Vous savez, dernièrement, le ministre de l'Enseignement a annoncé une série de mesures, n'est-ce pas, pour consolider la gratuité. L'enseignement des bases est gratuit dans les établissements publics. Voilà. Et pour les classes qui ne sont pas concernées par la gratuité, le paiement des frais scolaires se fera en franc congolais. L'achat des uniformes et des objets classiques dans les écoles n'est pas obligatoire. Les responsables des écoles privées et conventionnées font généralement la sourde oreille. Ils violent ces mesures en toute impunité. Alors comment faire respecter ces décisions et comment, quelle est l'ambiance actuellement dans les écoles? Comment les parents se préparent déjà pour la rentrée scolaire? Monsieur Serge Bondé-Dielé est le secrétaire général de l'ONG Young Men Association for Education, Young Men Action for Education, IMAE en sigle. Serge Bondé dit bonjour.
Bonjour, Papa Jody Kassama.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Alors, nous parlons des préparatifs de la rentrée scolaire. Le ministre Etounou Mouaba a annoncé quelques mesures. Voilà, les paiements des frais se fait pour les écoles où on donne l'enseignement des bases, je veux dire, demeure gratuit. Pour les classes qui sont pas concernées par l'enseignement de base, le paiement des frais s'est fait en francs congolais. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe dans les écoles en cette période? Voilà, on demande aux enfants de venir payer les frais de confirmation. Ceux qui ont pris nouvellement l'inscription, ils doivent payer des acomptes. Il faut acheter le journal des classes qui se vend au marché à 1000 ou 1500 francs. Dans les écoles, vous les achetez à 13 000 francs congolais, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela?
En tout cas, comme responsable de IMAE ONG et coordonnateur de la campagne École les âmes au Mbongoté, la structure de un mouvement de la société civile, une organisation partenaire qui œuvre dans le domaine de l'éducation avec un focus beaucoup plus accentué sur les questions de la marchandisation, de privatisation et du monnayage de l'enseignement. Nous ne pouvons que être satisfaits parce que, comme vous le savez, on a toujours déploré, on a toujours crié de questions, de problèmes de marchandisation qui s'observent pendant les différentes périodes et les plus graves sont celles qui sont commises à l'occasion de préparatifs des rentrées scolaires. Et ces qui s'observent sont, qu'on a toujours documenté, sont au nombre de 8 ou 9 faits. Vous avez ce que vous venez de dire, la vente obligatoire des uniformes scolaires dans les écoles, le paiement de frais scolaires obligatoirement en devises étrangères, le monnayage et marchandage du droit d'inscription des élèves qui ont l'âge de scolarité. Vous avez le problème de frais de confirmation d'inscription ou de réinscription. Vous avez le monnayage des tests d'admission ou d'évaluation des connaissances. Vous avez cette histoire rocambolesque des ventes obligatoires des objets classiques à l'école, des lattes, des sacs et consorts. Vous avez le refus d'admission ou la chasse carrément pour défaut de paiement. Vous avez le punaise problématique de fixation unilatérale ou imposée de frais scolaires et neuvième, la problématique de frais de construction. Ces 9 faits-là compromettent l'accès à l'éducation, ça favorise les antivaleurs, ça consolide davantage la fraude fiscale au niveau des écoles, les évasions fiscales aussi, ça dénature l'école de son sens, ça change la nature même de l'école jusqu'à transformer les écoles en un milieu marchand, c'est-à-dire, en ce moment-là, les opérateurs éducateurs, au lieu de se concentrer et de se consacrer à la pédagogie, ils se donnent plutôt à des opérations de commerce. Donc, il fallait remettre de l'ordre. Il est vrai qu'il y a des dispositions antérieures qui ont été prises, mais ici, il était important, avant la rentrée des classes, pendant que les parents se préparent, pendant que les choses se passent, que l'autorité de tutelle, c'est-à-dire au plus haut niveau de politique, de lever des options, de prendre, de rappeler les directives pour que les gens sachent comment s'y tenir. Alors, l'autorité de tutelle, le ministre de l'EPST, pour ne pas les citer, le professeur Tony Mwabakazadi, a pris sa note, sa lettre du 4 août, référencée 930, adressée aux directeurs provinciaux, qui sont au nombre des 60, si j'ai bonne mémoire, à travers toute la République. Et laissez-moi vous dire que ça tombe à point nommé aussi parce que au moment où nous parlons, Umaye va procéder à Kikwit, là où je me trouve dans la province de Kwilu, au lancement de la campagne École des âmes Mbongote, 6e édition, dont les premières opérations concernent effectivement les mesures prises par le ministre. Alors, le ministre a pris 5 importantes mesures. Il y en a au fait aussi 6, mais 5 qui sont libellées et puis une orientation. Et dans les 5, le ministre rappelle au directeur d'observer et de faire observer que les parents sont libres de se procurer des fournitures scolaires. Les uniformes, eux, des tenues d'éducation physique au marché de leur choix. Et laissez-moi poser des commentaires à chaque cas, Papa Jeudi. Lorsque nous disons que ces histoires occasionnent beaucoup de faits, nous les disons avec raison. Que les auditeurs retiennent. L'école a un statut particulier. C'est un établissement d'enseignement. Lorsqu'on vend, lorsqu'on achète, ce sont des opérations érigées ou soit ce sont des actes, des opérations érigées en actes de commerce.
Oui.
Alors que sur le plan des droits, ne peut poser des actes relevant de l'exercice des commerces que celui qui est habilité à être reconnu à ce titre. Et pour être reconnu à ce titre, il faut disposer, tenez, d'un numéro d'identification nationale. Il faut disposer d'un registre de commerce. Il faut disposer d'un numéro de compte impôt donné par l'ex-DGI,
oui.
Je crois, devenu ainsi de suite. Il faut disposer...
Je pense que c'est toujours la DGI.
C'est la DGI. Je voulais dire la contribution.
Oui.
La DGI. Donc, il faut disposer d'un certain nombre d'actes juridiques délivrés par les instances habilitées. Ce qui n'est pas par les écoles.
Donc, une école n'est pas une entreprise dont l'objet est de faire des bénéfices.
Exactement. Une école, c'est une entité sociale qui a pour mission d'éduquer, d'enseigner, de former. Une école n'est pas un établissement commercial, ni une société sous ses diverses formes suivant les droits OADA. Une entreprise, une école n'est pas une fondation, une école est une école.
Serge Bondedi, le ministre a rappelé ces mesures, voilà, pas de vente des uniformes au niveau de l'école, on ne demande pas les frais de confirmation, etc. Voilà. Mais la plupart des écoles privées et certaines écoles conventionnées font toujours la sourde oreille. Pourquoi?
Oui, vous savez, le changement de mentalité, c'est un long processus. C'est en termes de dizaines d'années, voire même de vingtaines, que ces phénomènes se sont incrustés et se sont enracinés dans de vie des gens, et se sont érigés même en comportement et en mentalité. Et c'est ça même le bien fondé de ces concepts du redressement. Et les gens s'entêtent parce que, en fait, ils trouvent gain de cause. Vous avez des écoles à Kinshasa, là où vous vous retrouvez, nous avons reçu de plaintes comme ça. Une école qui a une capacité d'accueil de 200 élèves, 200 nouveaux inscrits. Mais cette école s'est permis d'organiser les inscriptions jusqu'à atteindre 900 candidats, moyennant le paiement de 10 dollars. Tout en sachant qu'ils ont que 200 places, il faut, à la limite, c'est limité, même à 400. Donc, vous
ça,
voyez
ça veut dire que ça veut dire que les promoteurs de ces écoles sont devenus trop cupides.
Hein. Voilà, exactement. Donc, les gens ont donc perdu le premier sens, les premiers éléments de motivation qui doit caractériser un acteur pédagogique. Et c'est ce qui fait que, puisqu'ils ont trouvé gain de cause, bon, on peut se dire, du point de vue socio-économique, s'il faut compter les affaires actuellement qui sont fluorescentes, jusqu'à hier, c'était les écoles, parce que les gens s'organisaient en organisant, permettez la tautologie, les activités de commerce dans les écoles, parce que les écoles sont à l'abri des commerces de services étatiques censés surveiller les trafics, le flux financier, les pratiques économiques, parce que les écoles ne sont pas réputées comme telles. Alors, il y a des bandes de personnes qui se sont arrangées pour utiliser les écoles à des fins de commerce. Lorsque les gens s'entendent, parce que vous avez des grandes papeteries dans nos villes, au lieu de passer par des magasins qui doivent avoir des autorisations d'ouverture, qui sont donc assujettis au passage à plusieurs itinérances des inspecteurs de l'économie, des services de territorialité, ils se sont arrangés pour faire passer tous ces flux de matériel derrière les écoles où les parents achètent, les élèves achètent, leurs fournisseurs se procurent parce qu'ils savent que les écoles sont épargnées de ces contrôles-là.
Oui, oui. Un instant, Serge Bondedi, nous rappelons aux auditeurs que vous pouvez participer à cette émission. Envoyez-nous des audios au 099-706-99-41. Envoyez une note vocale au 099-706-99-41. 099-706-99-41. Nous attendons vos messages audio de 40 secondes à 1 minute. Pour si vous avez des questions, des préoccupations ou bien vous avez des témoignages à donner. Alors comment, prenons par exemple un journal des classes qui est vendu au marché à l'un, c'est généralement combien, 1000, 1500, 2000 francs congolais peut-être, mais vous allez dans une école, vous l'achetez à 13 000 francs congolais. Comment expliquer cela? Et l'école vous oblige les enfants à acheter là-bas.
C'est ce qui est grave. Je peux vous citer ce matin, parce que j'ai les éléments, je vous cite le complexe scolaire John Wilson qui est à Kinshasa Plateau, une école privée d'obédience, permettez que je le dise, d'obédience catholique, mais il faut verser 75 000 francs pour l'uniforme, pour le cahier de communication, pour la carte d'élève et pour la fard de chemise. Et il faut donner la compte de frais scolaires de 185 000 francs et 10 000 francs des frais de fonctionnement. Je peux vous citer, par exemple, l'école Révérend Kim, qui demande 100 dollars de frais administratifs. Donc, vous avez des gens...
C'est quoi les frais administratifs?
Même moi qui vous parle, je ne connais pas ce que c'est le frais administratif. Donc, les gens se sont avertis la compétence de créer par leur propre volonté, suivant leurs propres instincts, de frais qui n'existaient pas dans la nomenclature des autorités censées et habilitées à créer soit des frais ou à les fixer. Et ici, je cite le ministre national et le gouverneur au niveau des provinces. Ce sont là les deux autorités reconnues à fixer de frais. Le ministre national à travers sa circulaire portant directive sur les frais et le gouverneur à travers leurs arrêtés qui sont appuyés par des notes d'orientation
prise par des ministres provinciaux en charge de l'éducation. Donc, vous avez des gens qui croient que le secteur de l'éducation peut fonctionner comme si ce sont des zones de non-droit. Et dans ce que les gens font comme acte, il ne faut pas oublier que cela préjudice même ceux qui ont reçu mandat, ceux qui sont reconnus au niveau de l'État à poser des actes de commerce. Vous avez nos mamans qui sont dans les étalages au niveau de marché à travers toute la République qui payent ce qu'on appelle des patentes. Et ces mamans doivent recevoir des clients. Mais elles se voient amputées des clients parce que les écoles font la rétention des clients. L'école qui ne paye ni taxes, qui ne paye ni redevances, mais qui provoque, qui est au centre des évasions fiscales.
Serge Bondé, on a appris même qu'il y a des écoles qui engagent des tailleurs en cette période, et ils sont là en train de coudre les uniformes, ou bien ils vont carrément acheter sur le marché, on met les cachets de l'école, et puis on les revend au plus fort. Au prix fort, je voulais dire.
Je vous dis, c'est effectivement le tableau que vous avez peint, que Imaye a toujours documenté à travers la campagne. Une fois, moi-même, j'ai été, par exemple, je cite le lycée Docteur Chaoumba, où j'étais en face d'un nombre important de couturiers qui étaient en train de coudre des uniformes. Donc, vous voyez que, bon, on va vous dire, les responsables d'école vous diront que c'est dans le cadre des activités d'autofinancement ou des générateurs de recettes. La loi cadre la loi cadre autorise aux écoles de développer les activités génératrices des recettes, mais ce n'est pas des activités qui posent un torse à l'exercice du droit à l'éducation en faveur des enfants. Les activités génératrices des recettes, si vous êtes une école secondaire où vous avez des laboratoires, vous pouvez fabriquer des détergents, vous pouvez fabriquer des craies. Si c'est une école technique et industrielle, vous pouvez organiser des garages, vous pouvez organiser des ateliers de peinture. Ce sont là des activités génératrices de recettes et non des activités qui compromettent l'accès des enfants à l'école. Lorsque vous avez le cas de la perception de frais en devises étrangères, papa, je dis...
Il y a des écoles qui perçoivent en euros, en dollars?
Déjà, ils fixent en dollars. L'école référente qui m'a fixé à 750 dollars. Vous avez Saint-Augustin qui a fixé à 550. Vous avez le cardinal Maloula qui a fixé à 620. Vous avez Monseigneur Mouquet, par exemple, qui perçoit aussi en dollars. Vous avez presque toutes les écoles qui fixent et qui perçoivent en dollars. Alors que ce n'est que ceux qui font la pratique des commerces, et pas n'importe quel commerce, le commerce transfrontalier, qui ont besoin de devises pour leur permettre d'importer leurs matières premières. Mais l'enseignement, qui est un produit local, qui est dispensé par des pédagogues, des professeurs, des enseignants qui sont au pays, comment comprendre des gens payés en francs congolais et que l'école qui les engage oblige de percevoir en dollars? Les gens vont dire qu'il y a question de la monnaie, la dépréciation de la monnaie face à la devise, mais imaginez combien et comment cette exigence illicite dérange énormément les parents, qui pour la plupart sont payés en francs congolais. Et sur le plan juridique, la Constitution érige le franc congolais comme la monnaie nationale, la monnaie des transactions et des opérations. Vous avez la comptabilité en République démocratique du Congo qui est tenue en francs congolais. Vous avez la circulaire sur les frais scolaires qui exige que le frais doit être fixé et perçu en francs congolais. Et au moment où le gens ne respecte pas cette réglementation, le parent qui est payé, je prends que l'exemple des enseignants qui en moyenne est payé à 300 quelques mille ou 400 000 francs, s'il doit payer le frais tel que je viens de voir là, il est obligé, lui, à son tour, de racheter la devise Et pour acheter la devise, il doit mettre les surplus.
Mmh.
Et tout cela fait que les gens peut-être ignorent la marchandisation crée même des instabilités au-delà de créer des problèmes de grogne, mais ça perturbe même le climat social au niveau des foyers, des parents qui se voient réduites de leur autorité parentale, qui se voient vidées de leur compétence comme chef de famille parce qu'ils ne savent pas répondre à une obligation qui n'a pas sa raison d'être au niveau des écoles. Et à ce moment-là, ils sont ridiculisés devant leurs enfants, ils sont ridiculisés auprès de leurs femmes, ils sont ridiculisés dans des parcelles à cour commune parce que ça se voit devant tout le monde que ce papa est incapable de payer de frais d'acompte, ce papa est incapable de payer ceci, et alors que peut-être à côté. Et ce sont là donc le bastion des inégalités.
Bien.
Les bastions de...
Bien, comment consolider la gratuité de l'enseignement et lutter contre la marchandisation de l'enseignement aujourd'hui, en cette période des préparatifs de la rentrée scolaire? Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, envoyez-nous des audios au 099-706-9941. 099-706-9941.
Voilà Milambo pour Belongo.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport est un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme. Vous apportez l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Bien, comment consolider la gratuité de l'enseignement et lutter contre la marchandisation? On va écouter le message de Justin Calabia. Il nous a envoyé une note vocale depuis la ville de Bounia. Écoutez.
Bonjour la Radio Okapi et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Oui, en tout cas, nous sommes très contents de la pertinence de ce sujet. Néanmoins, à ce qui concerne la mesure prise par le professeur Tony Mwaba, c'est salutaire. Mais dans ce pays, nous ne connaissons pas si nous sommes dans une anarchie. Parce qu'en République démocratique du Congo, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous voyez ? Il faut que tous les frais soient payés en monnaie nationale. Et c'est ce que dit même la loi. Mais quand moi j'ai fait les tours à travers, en tout cas ici à Bounia, à travers la ville de Bounia, je vois la plupart des écoles font en tout cas l'inscription en dollars. Alors que le ministre, lui, il a donné le mot d'ordre que le frais d'inscription soit à monnaie locale et qu'on ait une gratuité parfaite sur toute l'étendue. Mais je ne sais pas si cette mesure est prise seulement à Kinshasa, alors que Kinshasa, ce n'est pas seulement la RDC. Alors, nous croyons que cette mesure est rare, si on pourrait maintenant peut-être envoyer des délégations pour faire les suivis. Parce que dans ces pays, et nous avons en tout cas des ministères, mais les ministères qui ne font pas de suivi, là où il n'y a pas de suivi, vous pouvez nommer des gens, mais ces gens-là qui ne parviennent pas à faire les suivis, comment on saura que les Congo, c'est un pays continent? Alors que lorsqu'un pays, un grand pays comme ça, que chacun fait ce qu'il veut, et on ne met pas les suivis, par exemple, on fait fond. Est-ce qu'on connaît qu'on fait fond? Les inscriptions se font seulement gratuitement. Nous ne connaissons pas. Alors, nous remercions en tout cas le ministre Tony Mwaba, mais aussi, il fallait...
Bien, merci beaucoup à Justin Calabia. Serge Bondedi, votre réaction?
Oui, monsieur Justin a pleinement raison. Je crois que c'est pour cette raison d'efficacité que dans la lettre du ministre, il y a une instruction que j'avais dit lors de mon introduction, je cite le partenariat étant érigé en mode de gestion dans dans notre sous-secteur, vous êtes tenu de travailler en synergie avec tous les partenaires éducatifs concernés. Le problème est qu'il n'y a pas dans toutes les provinces, certes, il y a des provinces qui font quand même exception dans ce travail, des provinces éducationnelles, voulais-je dire, mais il y en a celles qui sont inefficaces. Même là où les gens sont efficaces, l'éducation étant érigée, dont la gestion est érigée en mode de gestion partenariale, Humaillé, qui s'est spécialisé dans ce travail, reste ouvert à œuvrer avec les responsables de l'éducation au niveau des provinces. Déjà, nous lançons la campagne aujourd'hui à Kikwit. Nous avons déjà suffisamment des outils, des collectes de données et dès mon retour à Kinshasa, après le lancement, vous allez voir, Papa Jeudi, comment est-ce que le membre des Himaillé seront répartis à travers la République.
Et là, Kikwit, vous êtes là pour le lancement de la campagne École Eza Mombongote, 6e édition.
En effet, 6e édition qui comprend un certain nombre de thématiques, et parmi ces thématiques, vous avez donc cette question des dispositions prises pour lutter contre la marchandisation. En ce qui concerne la campagne, nous l'avons située dans notre deuxième thématique, c'est-à-dire suivi des mesures contre la commercialisation et la marchandisation de l'éducation. Donc, et dans ces mesures, vous avez les 5 que le ministre a prises. Nous avons le cas de que je vous ai dit de frais de construction, et vous avez aussi la récente mesure que le ministre avait prise interdisant des activités de collation des grades académiques au niveau maternel. Donc après ces lancements, nous serons aussi sur terrain et pour pouvoir procéder donc à la collecte des données ici, et puis les jours suivants, ce sont nos secrétariats provinciaux dissimulés à travers la République qui vont pouvoir collecter les données sur ces cas interdits, dont l'interdiction venait d'être renforcée et rappelée davantage par le ministre. Et je crois, comme il venait de dire, les gens doivent comprendre que l'inscription, c'est un droit pour un enfant. La place de l'enfant, c'est à l'école. Les gens ne comprennent pas, tout simplement parce que les gens, à une certaine période, étaient habitués dans les antivaleurs. Les gens doivent savoir que la place d'un enfant, c'est à l'école. Et pour que l'enfant trouve sa place à l'école, cet enfant doit être inscrit au niveau de l'école.
Bien.
Lorsque l'enfant n'a pas sa place à l'école,
oui,
c'est à ce moment-là qu'il est livré à des choses que l'on a toujours décriées.
Et comment vos équipes vont travailler concrètement sur le terrain pour lutter contre la marchandisation de l'enseignement?
C'est-à-dire, nous avons mis en place un outil de collecte des données qui répond la collecte sur les écoles, donc la citation des écoles, les niveaux d'enseignement de cette école, si c'est au niveau maternel, primaire, secondaire et consort, et le type de gestion, si c'est une gestion publique, conventionnée, plutôt publique ou privée, si le régime est conventionné ou directement public. Et vous avez ces faits-là, donc, si dans cette école s'observe la vente des uniformes, si on perçoit le frais scolaire qu'en devise étrangère, c'est-à-dire il y a une contrainte opposée aux parents pour payer qu'en dollars ou en euros, si cela relève de la volonté des parents, tant mieux, ça on ne peut pas collecter, mais s'il y a une contrainte, c'est à ce moment-là que nos équipes vont collecter. Il y a le problème du monnayage et marchandage du droit d'inscription, c'est-à-dire là où on pose entrave au droit de l'enfant qui doit être inscrit. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Convention de New York, connue comme la CDI, Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reconnaît la place de l'enfant à l'école, et nous allons donc, à travers cet outil de collecte des données, nous allons documenter ces faits. Vous avez le fait de frais de perception de confirmation d'inscription, parce qu'il s'est observé dans une même école, lorsque l'enfant termine l'année, on délivre à l'enfant la pièce scolaire connue sous le nom de bulletin. Et dans le bulletin, il est marqué 3 possibilités, l'enfant double des classes, l'enfant passe des classes ou l'enfant quitte l'école. Mais curieusement, les gens actuellement, même si l'enfant passait des classes, au lieu que l'enfant passe calmement la classe supérieure, on exige à cet enfant de payer le frais de confirmation d'inscription. Ce sont des frais illicites. Et laissez-moi vous dire, profitez de cette occasion, il s'est observé, surtout au niveau du Grand Katanga, là où il y a une grande concentration des écoles privées, les gens se permettent de dire que le ministre a instauré la gratuité des inscriptions. Non, ce n'est pas ça le débat. La question est que ce n'est pas question de l'instauration de la gratuité des inscriptions et de confirmation d'inscription. Le frais d'inscription et de confirmation d'inscription n'ont jamais existé dans la nomenclature des frais scolaires en République démocratique du Congo. Ce sont des frais illégaux, ce sont des frais illicites que les gens ont développés. Et ici, il est question de la prohibition de ces frais-là. Donc les mesures, celles-ci comme antérieures, ont toujours rappelé que ce frais-là n'existait pas. Et la mesure a donc rappelé aux gens, pour savoir que l'inscription d'un enfant à l'école doit se faire gratuitement, parce que la place d'un enfant, c'est à l'école. C'est comme si vous amenez un malade à l'hôpital, on vous exige, avant que le malade accède à l'hôpital, il faut payer de l'argent. Ce n'est pas normal. Ce sont des antivaleurs qui s'observent, oui, suite à la dépravation de mère, et les gens doivent les savoir. Bien. Vous avez le problème du monnayage...
Oui, allez-y.
Le monnayage des tests d'admission. Qu'est-ce qui s'est observé rapidement? Les tests, c'est pour évaluer la connaissance de l'enfant qui vient s'inscrire dans une nouvelle école.
Oui.
Et il doit être soumis à un test des mathématiques, je ne sais pas, ça dépend du niveau, ça dépend de l'option, ça dépend des filières. Et ce test permet donc à l'enfant d'aller revoir ses notes pour être à la hauteur de cette évaluation. Mais curieusement, les gens ne voient plus l'intérêt pédagogique, l'intérêt scientifique pour mesurer les niveaux des compétences, les niveaux du savoir de l'enfant, mais on remplace, on substitue le test d'évaluation des connaissances
par la corruption,
paiement de frais, par la corruption. C'est ça donc la corruption, c'est ça les monnayages des tests. Puisque ça occasionne beaucoup de problèmes, c'est ainsi qu'on a dit, alors arrêtez avec ces monnayages de tests d'admission. Ce sont là le cas que nos équipes vont pouvoir documenter au niveau de ménage, oui, au niveau des communautés, dans des rues, dans des places publiques, auprès des citoyens, auprès des communautés, pour pouvoir constituer une base de données et partager cela aux autorités compétentes.
Bien, comment consolider la gratuité de l'enseignement et lutter contre la marchandisation? Eh bien, on en parle avec Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Servisa. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Comment consolider la gratuité de l'enseignement et lutter contre la marchandisation de l'éducation? Actuellement, alors les parents se préparent pour la rentrée scolaire, les écoles s'organisent aussi pour se faire de l'argent. Malgré l'interdiction du ministère, on perçoit les frais en euros, en dollars, etc., en devises. étrangères. Et puis, il y a beaucoup des exigences. Les enfants doivent acheter les objets classiques à l'école, etc. Alors, on va écouter, suivre les réactions des deux auditeurs. Destin depuis Bukavu et Jean-Marie de Cambové. Ils sont d'ailleurs à trois. Il y a Malonga de Bandundouville. Qui nous a envoyé une note vocale, Destin de Bukavu et Jean-Marie Cambové. On va les suivre tour à tour.
Tout ce que l'invité rappelle là, tout ce que l'invité dit, et même vous je dis, puisque vous êtes aussi expert et un journaliste professionnel, mais je vois que c'est une chanson. C'est comme l'hymne national que nous chantons chaque fois. Quel jour que et ce ministère nous présentera que non, on avait fermé cette école puisque ils se sont opposés au principe que le ministère a imposé. Ce sont les écoles catholiques et d'autres écoles qui vendent les uniformes obligatoirement. C'est nous les parents. Moi je l'ai dit. Hein? On les vend voilà, au vu de toutes les autorités. Des inspecteurs. Et puis, nous sommes soumis à ça. Puisque si il n'y a rien qui se font, alors, est-ce que je vais faire épargner seulement mon enfant, pourquoi? On achète. Et comme on commence encore à insister, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas ceci, il ne faut pas. C'est tout, ça se limite par là. Ça se limite par là. Et lorsque les écoles seront ouvertes ici, elles vont commencer à faire au contraire de ce qui est tenté de se dire. Et le ministre sera là, les inspecteurs seront là, toutes les autorités seront là. Alors comment? Ou bien vous voulez nous troubler, nous les parents? Hein? Vous voulez nous troubler? Cessez de nous embrayer, je dis. En tout cas, merci.
Merci Malonga pour votre réaction. On va suivre celle des destins de Bukavu.
Bonjour Radio Kapi, c'est Destin Yagi Mourola depuis la province du Sud Kivu à Bukavu. Moi je veux parler concernant les examens d'admission. Ici à Bukavu, nous voyons déjà des écoles qui commencent à retenir beaucoup plus d'effectifs des élèves. Disons plus de 1000 élèves à l'examen d'admission, tout en sachant qu'ils ne vont pas être capables de retenir tous ces élèves-là. Et que donc, le ministre doit beaucoup... insister sur cela, parce qu'il y a déjà des places qui se prennent par connaissance, il y a d'autres places qui s'achètent, mais ils ne sont là qu'à prendre des 5000 francs, des 10000 francs d'autres élèves, et ils ne vont pas les retenir, même si ces élèves-là parviennent à réussir l'examen d'admission. Vraiment, c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout, et dont on devait beaucoup y penser, parce que ça fait du mal, mais aussi, on devrait donner la chance à toutes les élèves, que tu sois en cinquième, que tu sois en sixième, que tu sois en quelqu'un qui vient de l'école primaire, tout le monde doit passer son examen d'admission, mais pas choisir et dire que non, ce sont les autres qui vont passer et de telles classes ne vont pas passer. Tout le monde doit avoir chance à cet examen. Merci.
Merci beaucoup. Destin depuis Bukavu, on va écouter Jean-Marie de Cambové.
Moi, je suis un membre de l'INAPEDO à Cambové. Papa Jody, s'il vous plaît, les problèmes de l'école aujourd'hui, c'est difficile de résoudre comment ça. Si le président est le cara de la nation, pour résoudre les problèmes de l'école par les ministres de l'enseignement, ça devient toujours difficile. Comment? Par exemple, ici chez nous à Cambové, l'école se paye très cher. L'école se paye très cher d'une façon que il y a les écoles comme les écoles de travailleurs sociétaires, que les sociétés ont adhéré là-bas. Pour nous, nos enfants, qui n'ont pas les enfants de travailleurs de la Gécamine, par exemple, Ils ne vont pas étudier là-bas. On nous demande beaucoup d'argent. Pour trouver l'inscription là-bas, il faut que tu sois aussi très forte. Il faut que tu sois fort là-bas. C'est difficile. Il y a seulement des histoires là. C'est toujours bizarre, papa Jody. C'est toujours bizarre. C'est bizarre, papa Jody.
Voilà, c'est toujours bizarre. Serge Bondédi, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs par rapport à ça?
Ah oui, j'ai senti l'expression du répit, l'expression de la désolation, de l'abandon, du relâchement, du désespoir. Eh bien, si tout le monde doit développer la réticence, parce que en face de lui, il y a des gens qui ne font pas correctement leur travail, je crois que le monde sera appelé à disparaître. Et ils sont des citoyens, ils doivent savoir qu'ils ont un rôle à jouer dans leur communauté pour booster les changements. Le vrai changement, c'est-à-dire celui qui est durable et pérenne, ne vient pas de très loin, ça commence là où ils sont. Lorsqu'ils ont un acte administratif, un acte juridique posé par l'autorité de tutelle, c'est une garantie, c'est une norme sous leurs mains. C'est un cadre normatif, un cadre référentiel auquel ils doivent se référer lorsqu'ils constatent des comportements de travers. Et non dire, malgré qu'on a dit ça, rien ne va changer. Si eux ne s'investissent pas pour les changements dans leur milieu naturel, qui changera les choses dans leur milieu? Donc, je comprends aussi que c'est une sorte d'interpellation. Je pense, puisque nous parlons des questions de marchandisation de l'éducation, je fais allusion au principe général 7 de la déclaration d'Abidjan, qui, en fait, sont des principes directifs relatifs aux obligations des États en matière des droits de l'homme de fournir un enseignement public et de réglementer l'implication du secteur privé dans l'éducation. Donc, ces principes généraux ou principes directeurs 7 invitent donc les États à développer la redevabilité sur la question de l'éducation. Et nous pensons que ça sera, le gouvernement fera œuvre utile à tous les niveaux après que ces mesures soient prises, aient été prises, à un certain moment d'avoir des aspects en ligne. Je crois que ce n'est pas impossible. Nous voyons avec Dinacopé, ex-Sécopé, qui a mis un certain nombre d'outils en ligne, le fichier paye en ligne, le truc des enfants en ligne. Pourquoi pas aussi l'inspection générale de l'EPST mettre des choses en ligne pour renforcer la redevabilité, renforcer les contrôles, de telle en sorte que nous puissions savoir dans des mesures telles qui ont été prises, la société civile, le partenaire éducatif dans notre ensemble tel que l'autorité de tutelle a demandé que nous puissions joindre nos efforts avec ces proposés au niveau des provinces, que nous sachions qui ont posé des actes de travers, qui les ont suivis, ils ont été sanctionnés, de quelle manière, pour quelle durée et quelles sont les sanctions qui ont été prises. Ça renforce la confiance, ça renforce les motivations. Je crois qu'ils ont raison de poser ces problèmes, mais je les encourage à ne pas développer l'abandon ni le répit parce que le changement prend un temps. Notre ami Destin qui a parlé de l'affaire du monnayage des tests, effectivement, c'est ce que nous décrions. Le test a un sens pédagogique, les tests a un sens dans la formation intellectuelle de l'enfant. On ne peut pas remplacer le test par l'argent. On ne peut pas troquer le test par l'argent. Il faut que les gens sachent qu'il faut permettre aux enfants
Merci.
De faire les tests.
Merci beaucoup Serge Bondédi. Il n'y en a plus beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
C'est à moi de vous remercier.